Oui, bien, bonjour et bienvenue à l'émission. Émission Les Voix de Service Magazine. Émission du vendredi 20 octobre 2017. C'est Hélène Bédard qui vous parle et avec moi en studio, j'ai Francine Neforger. Bonjour, Francine.
Bonjour, Hélène. Ça va bien ce matin?
Très, très bien. Il fait tellement beau. C'est
Ah,
ravissant, la température.
merveilleux.
Et nous avons à la régie Mathieu Tessier. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour.
Voilà. Écoutez, ce matin, nous y allons avec certaines présentations. Je vais demander d'abord à Francine de quoi vous allez nous parler ce matin.
Entre autres, certainement de deux choses bien différentes. La première porte justement sur deux choses en même temps. Alors, c'est une chronique sur des applications qui peuvent nous protéger de nous-mêmes.
Oh.
Et ensuite, une rencontre avec un auteur à l'école, Simon Boulris.
Deux sujets passionnants. En ce qui me concerne, je vais vous entretenir je ne peux pas échapper au sujet d'actualité actuellement. J'ai de très beaux textes qui concernent certains aspects de l'amour et des dépendances affectives. Je vous reviens dans quelques instants avec ces premiers sujets. Oui, eh bien, me revoilà, Hélène Bédard au micro. Je vais donc aborder un sujet. En fait, je vais vous lire deux textes. Le premier, ça concerne les pervers narcissiques. 10 signes qui pourraient vous alerter. En fait, peut-être pas 10, mais quelques signes qui pourraient vous alerter. C'est un texte de Mélisse Guillier qui vient de Passeport Santé. On dit ceci: le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire, vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal, le prince charmant, attentionné et vous comble, jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle odieux. Le pervers narcissique choisit une cible, il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît, car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme folle, dépressive et même paranoïaque. La violence fait aussi partie de ces techniques d'intimidation et d'humiliation envers sa victime. Les critiques sont permanentes, en public, toujours en finesse ou en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente, ce manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Pour être parfaitement sûr que sa victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle. L'isolement devient alors total. On considère souvent ces gens, ces pervers narcissiques, comme des maniaques de l'argent. À juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, ils s'octroient largement les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. Gare aux phases de lune de miel, c'est le terme employé pour montrer que le pervers narcissique revêt régulièrement son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans ses filets. Non, il ne change pas. Non, il ne demande pas réellement pardon. C'est encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose ou endormir la méfiance de la victime. N'oubliez pas, il est dénué d'empathie. Ce trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité, est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire, car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. Le mensonge est au quotidien. C'est pathologique chez eux. Ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés, aimés par leur entourage. Car c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent même, parfois, les qualités et succès de leur victime tant la soif de reconnaissance leur est grande. Les déviances sexuelles s'ajoutent au sombre tableau de ces personnalités. En couple, le pervers a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, quelquefois violentes, et opte parfois, ou souvent, pour le sadomasochisme. Comme il en a souvent subi étant jeune et qu'il est dénué d'empathie, il est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants ou de la pédophilie. Il est intelligent, il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, il faudra beaucoup de prévoyance et de discrétion et ne faire confiance à personne pour l'aider, car le pervers narcissique aura sans doute disposé des espions parmi ses amis de son entourage et il sera prêt à tout pour la punir de ce départ. Après ce lourd diagnostic, je vais maintenant continuer avec le texte suivant, c'est « Comment s'en défaire ?» de ce pervers narcissique. C'est toujours un texte qui vient de Passeport Santé. Un pervers narcissique est dans un raisonnement de toute puissance. Cette personne croit qu'elle a raison et que les autres ont tort. Il est donc difficile d'espérer lui faire changer de comportement. Bien qu'il soit parfois difficile d'identifier une relation toxique et de la quitter, la meilleure façon de se défaire de l'emprise de cette personne est de mettre fin à la relation, particulièrement s'il s'agit d'une relation de couple. Ce type de relation peut conduire à de l'épuisement et à une perte de confiance en soi. De plus, tout espoir de vie harmonieuse, saine, est totalement vaine. À court terme, les personnes qui doivent poursuivre une relation avec un pervers narcissique, par exemple dans un milieu de travail, peuvent utiliser la contre-manipulation. Il s'agit donc de communiquer avec lui à l'aide de phrases courtes et floues, de faire preuve de beaucoup d'humour et d'ironie. L'important est de montrer à travers ses réponses que le pervers narcissique n'a pas de pouvoir sur les émotions d'autrui. Être victime d'un pervers narcissique crée une confusion mentale. Ces bouleversements émotionnels empêchent parfois des réflexions rationnelles. De plus, ce pervers narcissique cherche fréquemment à isoler la personne sur qui il exerce son emprise et tente parfois de lui faire couper le contact avec ses proches, comme je l'ai dit précédemment dans le texte précédent. Malgré cela, il est important de mettre son entourage au courant. Éventuellement, prendre un avocat peut s'avérer utile car les pervers narcissiques sont souvent des experts de la diffamation. Des amis suffisent parfois à venir en aide à une personne victime. Une consultation, évidemment, auprès d'un psychothérapeute averti, est souvent recommandée. Le trouble de la personnalité narcissique est souvent difficile à soigner puisque le principal intéressé ne s'aperçoit pas toujours qu'il est atteint. Habituellement, c'est l'entourage de cette personne qui constate qu'elle a besoin d'aide. Le pervers narcissique a donc souvent une vie de couple instable et des rapports avec l'entourage familial ou social conflictuel. Dans de rares cas, par exemple, suite à un divorce ou à de nombreux échecs relationnels, il peut avoir une prise de conscience et entreprendre un travail sur lui-même. Différentes psychothérapies peuvent aider le patient à faire ressortir le mal-être qui a occasionné ce type de personnalité. L'origine de ce mécanisme de défense remonte souvent à la petite enfance. Voyons donc, une thérapie familiale peut regrouper la famille de la personne atteinte. Plusieurs sessions de discussion visent à explorer les conflits et les problèmes de communication afin de faire face aux problèmes relationnels. Thérapie de groupe consiste à des rencontres avec des personnes qui ont le même type de problème et qui visent à améliorer les relations avec les autres. C'est une occasion d'apprendre à écouter les autres et surtout à devenir sensible à leurs émotions. Thérapie individuelle. Ça peut prendre plusieurs années avant que des résultats soient constatés. À long terme, évidemment. La thérapie vise à restructurer la personnalité, recréer une image positive et réaliste de soi-même et d'avoir des rapports plus agréables et plus satisfaisants. Les troubles de la personnalité narcissique, ce sont des personnes qui ont certains ou plusieurs traits de cette personnalité sans les avoir tous, fort heureusement. Si en lisant cette fiche, vous semblez vous reconnaître dans les traits que nous décrivons, votre première réaction sera de refuser de voir cette réalité car vous ne pourrez accepter que quelque chose puisse brouiller votre image de puissance et de perfection. Mais il reste que vous avez probablement des problèmes dans plusieurs aspects de votre vie, comme vos relations interpersonnelles au niveau de votre vie conjugale, familiale, sociale et au travail. Vous serez peut-être malheureux et souvent confus par des émotions contradictoires. Vous constatez aussi que les personnes que vous côtoyez n'apprécient pas vraiment votre présence et que vos relations sont peu satisfaisantes. Si cette situation correspond à la vôtre, pensez à consulter un psychologue ou un médecin en qui vous avez confiance. Un traitement approprié, soit la thérapie individuelle, familiale ou de groupe, pourrait rendre votre vie bien plus gratifiante et bien plus agréable.
Je m'appellerai l'amour, je te courtiserai. Je m'appellerai la peur, je te défendrai. Je m'appellerai la nuit, je t'illuminerai. Je m'appellerai la mort, je t'épargnerai. Pour te faire longueur, comme tu m'as fait sous l'heure, je m'appellerai le vent, je te blesserai. Ne me crois pas méchant, écoute mon couplet. Je m'appelle douleur et tu es ma demeure. J'ai tant battu les rues, j'ai tant battu les heures, qu'enfin tu es venu, comme en mer la lueur. T'as dit j'aime les fous, parce qu'ils aiment les fleurs, mis dans tes deux mains nues, ma raison et mon cœur. Ne me crois pas avant, me crois pas servant. Je t'aime tant et tant, maintenant tu le sens. Traverseront les pleurs, traverseront les ans, traverseront les temps, mon fardeau, ma chaleur.
Merveilleuse chanson de Félix Leclerc que nous chantait Fred Pellerin.
Eh bien, nous voici de retour après cette magnifique chanson. Je laisse la parole à Francine qui va nous introduire à quelque chose qui pourrait nous protéger.
Oui! Alors, c'est une chronique qui est parue dans la Presse Plus le 15 octobre, donc dimanche dernier. Deux choses en même temps. Alors, c'est Marc Cassivi qui en est l'auteur. Une fonction sur mon téléphone cellulaire m'empêche désormais de répondre à des textos ou à des courriels lorsque je suis au volant. J'en suis rendu là, à m'imposer à moi-même des interdits technologiques comme à un mineur à qui l'on restreint, grâce à des filtres, l'accès à des sites web ou à des contenus télévisuels dits inappropriés. Je m'appuie sur un verrou de sécurité, semblable à celui prévu pour les jeunes enfants dans les portières des voitures, afin de ne pas risquer ma vie sur la route, en espérant que je ne finirai pas par mentir à mon téléphone intelligent, et à moi-même, lorsqu'il me demandera si je suis bel et bien au volant. Mon libre arbitre ne suffit plus. Pas davantage que ces percutantes publicités de la Société de l'assurance automobile du Québec mettant en scène des gens qui ne peuvent plus faire qu'une chose à la fois, se raser en fauteuil roulant, depuis qu'ils en ont fait deux en même temps, texter et conduire. Un après-midi du printemps dernier, boulevard Rosemont, Un vieil ami d'université que je n'avais pas revu depuis presque 25 ans a cogné sur ma vitre d'auto en courant pendant que je consultais mon téléphone au feu rouge. « C'est dangereux », m'a-t-il rappelé, avant de poursuivre aussitôt sa course à pied. Je me suis demandé s'il me l'avait reconnu. Je me suis dit que je devrais l'écouter. Je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que j'adopte cette fonction anti-texto pendant la mise à jour de mon téléphone. Un fascinant reportage du Guardian, publié la semaine dernière, « Our minds can be hijacked », s'intéresse au phénomène de la dépendance au téléphone intelligent, pas très différente de la dépendance à la cigarette ou aux drogues. Le quotidien britannique a interrogé de nombreux objecteurs de conscience qui, ayant occupé des postes stratégiques chez Facebook, Google ou Twitter, sont aujourd'hui très critiques à l'endroit des technologies qu'ils ont développées chez les géants de Silicon Valley. Le nouvel iPhone de Justin Rosenstein, ingénieur informatique de 34 ans, ne lui permet plus d'accéder à Reddit ou Snapchat, qu'il compare à de l'héroïne. Son appareil est muni d'un contrôle parental qui l'empêche de télécharger toute nouvelle application. Il dénonce les méthodes utilisées par les multinationales de la technologie pour nous rendre accros à leurs produits et considère, par exemple, le fameux bouton « like » de Facebook comme un outil d'autostimulation vide de sens. Il est bien placé pour en juger. Il y a 10 ans, il l'a lui-même inventé. De nombreux cracks de l'informatique, pourtant pleins de bonnes intentions, se rendent compte aujourd'hui des méfaits de leurs inventions. Ils ont, pour eux-mêmes et leur famille, développé des mécanismes de défense contre la dépendance aux réseaux sociaux. Un routeur qui coupe tout accès à l'Internet après 20 heures, un téléphone branché dans la cuisine pour la recharge de nuit dès 19 heures, des écoles sans appareil électronique pour les enfants, une application, Pocket Points, qui incite à ne pas utiliser son téléphone à des moments précis de la journée, etc., etc. Et pour cause, selon une étude de la firme Discount réalisée l'an dernier, l'utilisateur moyen touche l'écran de son téléphone intelligent 2617 fois par jour. Près de 87% des propriétaires de téléphones intelligents se couchent et se réveillent avec leur appareil. Et pendant que l'on rafraîchit sans cesse son compte Twitter, comme un accro aux machines à sous dans un casino, notre capacité à nous concentrer se trouve altérée. Face aux réseaux sociaux, nous sommes atteints d'un TDAH collectif. Des études le démontrent. Nous sommes dépendants à la dopamine produite par les likes de Facebook et ses multiples dérivés sur Twitter ou Instagram qui ne servent pas qu'à témoigner de la popularité de nos statuts, mais bien à mieux définir notre profil de consommateur auprès des publicitaires. C'est une compulsion. Malgré tout, nous plongeons, sans savoir pour quelle destination. Combien de fois me suis-je demandé, au bout d'une demi-heure sur Twitter, ce que j'étais venu y chercher au départ? Et combien de fois ai-je regretté, après avoir passé 20 minutes sur Facebook, d'y avoir encore une fois perdu du temps précieux? C'est fait exprès. C'est la nature de la bête. Twitter, Facebook, Instagram sont des abysses de procrastination conçus pour nous étourdir en nous faisant tourner en rond, jusqu'à en oublier ce que l'on a à faire de mieux. Dans la dernière année, je suis allé voir 2 matchs de basketball. Les 2 fois, j'étais assis derrière un groupe de 4 ou 5 filles et garçons dans la jeune vingtaine. Les 2 fois, ils ont passé le plus clair de leur temps non pas à regarder le match, mais à fixer leur téléphone en prenant des selfies, à regarder des photos sur Instagram ou à éliminer de potentiels prétendants sur Tinder. Un hasard? La semaine dernière, un cinéphile se targuait sur Twitter d'avoir vu Blade Runner 2049 en salle, sans avoir consulté une seule fois son téléphone. Il voulait dire à quel point il avait apprécié le film de Denis Villeneuve. Comme si regarder un film d'une traite, sans vérifier ses textos et courriels, relevait désormais de l'exploit. Ce n'est pas bien grave lorsqu'il s'agit d'un film ou d'un match de basketball. Ce l'est davantage lorsqu'on est au volant. Et comme le soulignent avec raison les spécialistes cités par The Guardian, lorsque notre téléphone nous distrait des enjeux politiques du moment et de ce qui est réellement d'intérêt public dans les médias, c'est la démocratie qui, à terme, risque d'être menacée. Il doit bien exister une application pour nous en prémunir. Alors voilà, c'était Marc Cassivi, je m'excuse, dans la presse plus de dimanche dernier.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Complainte du progrès que nous chantait Boris Vian. C'est à vous.
Et voilà, Hélène Bédard de retour. Je vais vous entretenir d'un texte qui vient de Passeport Santé et qui est toujours d'actualité avec... C'est ça, qui est au sommet de l'actualité. Je vais vous parler des choses qui peuvent détruire notre couple. La première chose qui vient à notre esprit, c'est le manque de respect. Un couple qui va bien, c'est deux partenaires qui se respectent. Il n'y a pas d'insultes, pas de violence, personne ne rabaisse l'autre. Chacun a compris que l'autre doit s'épanouir en tant que personne et chacun a donc son passé privé, son jardin secret. Lorsque le respect est perdu, il n'y a généralement pas de retour en arrière possible. La jalousie excessive, qu'en est-il? C'est un sentiment qui vient de la peur de perdre l'autre, d'un certain manque de confiance en soi et en l'autre. Ce n'est pas un signe d'amour, en revanche. Il peut arriver à tout le monde d'éprouver de la jalousie, c'est pas grave. Mais attention, de ne pas laisser la jalousie prendre le contrôle jusqu'à virer à l'obsession et faire voler le couple en éclats. Lorsqu'on est en couple, on partage beaucoup de choses. Il est donc important que l'autre soit à l'écoute et puisse nous soutenir et nous épauler dans des moments forts, tristes comme joyeux. Si l'autre ne fait pas preuve de compassion et n'est jamais là dans les moments difficiles, La relation va mal. Il y a donc absence de soutien. Lorsqu'on s'en retrouve, se plaindre sans cesse et exiger toujours plus est épuisant pour l'un comme pour soi-même. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il faut se demander pourquoi on se plaint tout le temps. Est-ce une mauvaise habitude ou le symptôme d'une insatisfaction générale? Il est normal que la relation soit fusionnelle au début. On appelle ça la lune de miel, de sentir qu'on ne fait qu'un, de voir l'autre comme on voudrait qu'il ou qu'elle soit, comme quelqu'un qui nous complète. Seulement, pendant cette période et après, il est important de ne pas répondre à tous les désirs de l'autre et de ne pas faire passer ses besoins avant les nôtres, dans le but de faire perdurer la fusion. Le vrai amour, c'est celui où on aime réellement la personne pour ce qu'elle est et pas pour le vide affectif qu'elle comble en nous. De nombreux couples se séparent à cause d'un manque de communication. Il faut parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Il faut exprimer sur ses désirs, ses envies, ses ressentis, écouter et prendre en compte les avis, désirs, envies et ressentis de l'autre. De toute façon, lorsqu'on garde pour soi ce qu'on a sur le cœur, cela finit toujours par ressortir. Un couple devrait, pour entretenir la flamme, veiller à garder des marques d'affection, des relations sexuelles régulières, des moments de tendresse et des activités hors du quotidien. Bref, passer du temps en amoureux. Et faire attention, ne plus avoir de projets en commun est essentiel pour avancer à deux. Donc, ne plus en avoir met le couple en danger. Même si tous nos projets n'ont pas à être en commun, un couple qui va bien fait des projets courts ou long terme, ils en parlent, ils imaginent, ils font des plans, ils les modifient. Sinon, c'est s'éloigner petit à petit. Être deux, c'est aussi s'affirmer en tant que personne à part entière et savoir dire non. Un couple est formé par deux personnes et aucun ne doit s'oublier pour essayer de ne faire qu'un ou laisser plus de place à l'autre. N'oubliez pas, la sexualité est révélatrice de l'état de la relation. Si votre sexualité est épanouie, la complicité et l'amour s'en trouvent renforcés. Dans une relation qui marche, les partenaires sont tous les deux satisfaits de leur vie sexuelle. Un texte de Marie Desbonnets de Passeport Santé. Alors, ne quittez pas. Nous vous revenons tout de suite après la pause. Alors, le deuxième volet de Les Voix de Service Magazine se poursuit.
Je suis dans sa chambre et son lit qui tangue, ses lèvres et mes doigts. Ah, mais je pense à toi. Je connais les pas de la danse, mais je ne sais pas danser. Peut-être veux-tu m'apprendre, peut-être je cesserai de penser. Toujours dans l'attente, balayer les cendres, de feu notre combat, encore ce constat.
Je ne sais pas danser, peut-être veux-tu.
fait le jour en moi. Au clair on trouvera un autre nom pour l'amour qui sonnerait moins lourd.
Alex Nevsky qui nous chantait « Les pas de la danse » tiré de son album « De lune à l'aube ».
Et nous voilà de retour en studio, Hélène Bédard, Francine Forget et Mathieu Tessier à la régie. Alors, je vais laisser la parole à Francine qui va nous introduire à…
Un auteur à l'école. Alors, Émilie Perrault, de l'actualité, a suivi Simon Boulris dans une de ses conférences à l'école. Alors, l'occasion de faire une très belle entrevue avec lui, publié dans l'actualité du mois d'octobre 2017. Un auteur à l'école, écrivain prolifique et populaire, ne reculant devant aucun tabou, même quand il écrit pour les jeunes, Simon Boulris est l'invité idéal pour intéresser un groupe d'élèves à la littérature. Je vais faire payer ceux qui m'ont fait souffrir et je vais me racheter une vie. Simon Boulris avait 15 ans quand son professeur de français a recopié au tableau cette phrase tirée d'une de ses rédactions. Son premier aphorisme. 20 ans plus tard, l'adolescent mélancolique est devenu un adulte épanoui et a publié presque une quarantaine de livres sans avoir fait payer personne. Véritable moulin à paroles, il accepte les invitations à rencontrer des élèves aux quatre coins de la province, même s'il n'a pas de permis de conduire et qu'il doit chercher des gens qui peuvent le déposer. L'actualité l'a accompagné dans une école pendant toute une journée. Entretien devant un repas chaud pris à la cafétéria. Quelle est la place d'un auteur dans une école? Il est à sa place. Les auteurs devraient se rendre massivement dans les écoles pour démocratiser les arts en général. L'écriture est une façon d'aborder plein de thématiques, de sujets un peu tabous. Il y a un festival en France qui a pour nom « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts ». C'est important de dire aux élèves « L'auteur que vous lisez, il existe, il est accessible et contemporain ». Oui, il y a Molière, mais il y a aussi de la littérature qui s'écrit dans le présent, qui parle de thématiques qui peuvent résonner chez vous. C'est un pouvoir incroyable. Vous citez beaucoup vos anciens professeurs dans votre présentation aux élèves. On est la somme de ce qu'on a aimé dans la vie. Je me vois souvent comme un passeur. Il y a des phrases qui m'ont fait du bien. En quatrième année, mon enseignante m'a dit que j'écrivais bien. Je me voyais déjà écrivain. Mais elle parlait en fait de ma calligraphie. Ça m'a quand même marqué. Ainsi que la fameuse citation de Cocteau que je reprends toujours. Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Notre unicité devient force. Je trouve ça important de le leur dire. Vous faites plus de conférences dans les écoles qu'à la moyenne des auteurs. Est-ce alimentaire? Au départ, ça l'était beaucoup. Quand j'ai vu le cachet qu'offre le programme La culture à l'école, j'ai trouvé ça intéressant. Mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est surtout une façon de promouvoir mon œuvre. On écrit pour être lu, que mes livres circulent et plus payants que le cachet qu'on me remet. J'essaie de trouver des façons de charmer les élèves, sans être racoleur. Je fais parfois même la split. C'est une impulsion, ça les fait rire, ça les surprend. Ça banalise le fait que je suis un auteur. Ça m'enlève du piédestal. Bien oui, je fends mon pantalon. Anecdote véridique. L'auteur a fait le grand écart et fendu son pantalon ce jour-là. Les élèves et la journaliste en ont été témoins. Vous inspirez-vous de ces rencontres pour créer vos personnages? Je note des détails. Un garçon rouquin qui porte un large chandail du Canadien de Montréal, en même temps que du vernis de couleurs différentes sur chaque ongle, je trouve le décalage intéressant. Il y a des choses qui ne s'inventent pas et qui ne demandent qu'à être cueillies. On dirait un personnage de Simon Boulris est devenu une façon de qualifier des gens. Comment évaluez-vous la situation des écoles au Québec? J'en vois de toutes les sortes, les meilleures comme les pires. Certaines bibliothèques sont très pauvres, c'en est gênant. Mais il y a aussi des écoles qui inspirent la sérénité. Dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai été charmée par l'école Lévesque à Saint-Donat, près de Rimouski. Elle est entièrement vitrée. Le gymnase est au centre et les salles de classe sont tout autour. C'est tellement sain. Ça influence les élèves. Tout le monde était décontracté. Les profs y sont aussi pour beaucoup. Il y en a qui sont fatigués, mais la plupart sont passionnés et ils ont envie de communiquer leur goût de la lecture. Mon plus grand grief à propos des écoles, c'est le programme. Il faut des cours d'éducation sexuelle. D'économie aussi. Moi, j'ai haï ça, mais j'ai appris des choses dans ces cours. Le pire, c'est le par cœur. Le devoir des professeurs est d'être dans le moment présent et d'établir des ponts. Il faudrait les inciter à lâcher la matière pour discuter des questions qui préoccupent les jeunes. Bref, plus d'auteurs dans les écoles? Oui, un artiste à l'école, c'est un catalyseur du moment présent. Alors, artiste invité, c'est un programme du ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport. Les enseignants qu'ils désirent peuvent inviter des artistes à faire une conférence dans leur classe grâce à ce programme qui a été mis en place en 2000 par le ministère, comme je l'ai mentionné précédemment. Alors donc, cette rencontre avec Simon Boulris, elle est relatée dans l'actualité du mois d'octobre 2017.
Retour avec un texte qui est tiré du Devoir par la chroniqueuse Francine Pelletier, un texte qu'elle a écrit le 18 octobre de cette semaine. Le voici. Harvey Weinstein a l'illustration ultime du danger qui guette toujours les femmes. Partout où l'homme est puissant et la femme jeune et vulnérable, une rencontre avec le gros méchant loup est quasiment assurée. Mais ça, Donald Trump, Yann Gomeshi, Dominique Strauss-Kahn et combien d'autres nous l'avaient déjà démontré. Pas très surprenant non plus, le silence que les victimes ont gardé toutes ces années, ni l'omerta qui régnait dans le milieu. Dans un monde qui consiste à exposer la chair fraîche, le merveilleux monde du show business, à sexualiser le moindre nombril, personne n'a le droit de cracher dans la soupe. La véritable révélation dans cette histoire est plutôt, si on se fie aux allégations, le côté pervers de l'homme lui-même. Avant l'énormité qu'est Harvey Weinstein, la grossièreté immonde du personnage, avait-on bien saisi la sexualité maladive, le power trip pornographique au cœur de ses agressions à répétition? Mais c'est toute une découverte. Qu'un homme ait une sexualité débridée, comme c'était le cas, dit-on, de John F. Kennedy, qu'il ait envie, comme bien des vedettes du monde culturel ou politique, de se taper tout ce qui bouge pour satisfaire son ego ou sa libido, c'est une chose. Mais qu'un homme, et pas n'importe lequel, le producteur de cinéma le plus influent des 30 dernières années, attendre son prochain rendez-vous, toujours selon les témoignages, tout nu dans son bain. Pourchasse sa jeune collègue autour d'un divan comme un gamin, souligne son pressant besoin sexuel en se masturbant devant elle et aille jusqu'à s'exposer dans un restaurant. Tout ceci en dit long sur l'espèce d'abêtissement sexuel dont ses gestes témoignent. On croyait la misère sexuelle disparue avec les années 1960, mais grâce au Harvey Weinstein, Bill Cosby, Dominique Strauss-Kahn et Roman Polanski de ce monde, voilà qu'elle revient, plus sordide, plus glauque et plus violente que jamais. Curieusement, Weinstein a tenté de se défendre en invoquant justement la libération sexuelle. « Ah, désolé, » dit-il à la jeune mannequin italienne qu'il avait tenté de peloter. « J'y suis habitué », invoquant plus tard le fait d'avoir grandi dans les années 1960, comme si les mœurs libérales de ce moment-là avaient éliminé toute frontière, toute décence et surtout toute considération pour sa partenaire. Si la libération sexuelle a trop souvent fonctionné à sens unique, assouvissant le désir sexuel mâle, bien avant celui du sexe opposé, elle a permis, une fois conjuguée, à la libération des femmes quelques années plus tard, de sortir la sexualité des boulimites. De cesser de l'entrevoir comme quelque chose de vaguement, voire de profondément honteux, quelque chose qu'on faisait comme un voile à l'étalage, vite, mal, et dans le noir de préférence. Or, Harvey Weinstein, le dieu de Miramax, semble aborder la sexualité précisément de cette façon, de la même manière que les jeunes Ontariens venus au Québec pour se saouler la gueule abordent l'alcool, donc sans le moindre contrôle, sans la moindre notion de quoi il s'agit, comme un genre de cri primal. C'est laid, mais faut que ça sorte, bref, en parfait animal. En 1963, Betty Friedman dénonçait dans un livre désormais célèbre, « La femme mystifiée », elle dénonçait donc le problème qui n'a pas de nom. Son brûlot levait le voile sur la détresse des femmes captives de leur rôle de ménagère. Et si nous faisions face à un nouveau problème sans nom? Si la déferlante d'agression sexuelle subie par les femmes encore aujourd'hui, malgré des décennies de conscientisation et de progrès, reposait, outre le mépris qui perdure à leur égard, sur une certaine sexualité masculine toute croche. Comment réconcilier, selon les accusations qui ont été déposées, qu'un dieu du petit écran drogue des femmes pour mieux les tripoter, ici nous parlons de Bill Cosby, qu'un grand cinéaste viole une petite fille de 13 ans, nous parlons de Roman Polanski, que le directeur du Fonds monétaire international séquestre et agresse sexuellement une femme de chambre, plonge sa main dans le décolleté d'une journaliste venue l'interviewer, ici nous parlons de Dominique Strauss-Kahn. Comme Harvey Weinstein, il y a quelque chose qui ne colle pas entre ses comportements délirants, déviants, voire criminels, et le comportement de tous les jours de ces mêmes hommes, reconnus pour leur intellect et leur savoir-faire. Il y a carrément quelque chose qui se détraque sur le plan sexuel. On parle beaucoup actuellement de masculinité toxique, comme façon d'étiqueter le machisme qui perdure, mais le vrai danger qui guette les femmes, celles qui risquent de payer plus chèrement encore, rigide dans cette sexualité psychopathe, cette masculinité malade à la Harvey Weinstein. Et nous voici de retour, et cette fois-ci, je vais laisser la parole à Francine.
Alors, merci Hélène. Un clin d'œil numérique, le plan techno d'un nouveau père, Maxime Johnson, dans l'actualité. Parce, semblait-il, ça prend un plan. Dans les 776 pages que compte « Mieux vivre avec notre enfant, de la grossesse à 2 ans », l'ouvrage de référence remis aux parents par l'Institut national de santé publique du Québec depuis près de 40 ans, aucune ne concerne les nouvelles technologies. Un manque étonnant, compte tenu de leur importance dans la vie des familles modernes, que j'ai souhaité corriger pour l'arrivée prochaine de ma fille, Simone. Voici mon plan techno pour ces 5 premières années. Limiter les écrans. les consignes de la Société canadienne de pédiatrie sont claires. Aucun temps d'écran, tablette, télé, téléphone n'est souhaitable pour les enfants avant 2 ans et une limite d'une heure quotidiennement est recommandée de 2 à 5 ans. C'est peu, oui, mais avec des jeux intéressants et des moments avec ses parents, Simone devrait s'en sortir. Et repousser l'arrivée des écrans aura l'avantage de retarder les sempiternelles négociations pour les ranger avant le repas. Le plus difficile sera en fait pour papa, hein, qui devra montrer l'exemple malgré ses 1000 gadgets à tester. Essayer les jeux vidéo, publicité abusive, thème ennuyeux, absence de pédagogie, bien des jeux vidéo pour tout petit sur tablette électronique laissent à désirer. Il y a heureusement de bons titres qui sortent du lot. Encourager les virements Interac. Simone aura sa propre adresse courriel, reliée à un compte à partir duquel son régime enregistré d'épargne études sera accessible. Pour la parenté qui souhaite donner un cadeau d'anniversaire ou de Noël, un virement Interac pourra être une façon simple de contribuer à son instruction plutôt que de lui offrir un énième toutou. Documenter intelligemment ses premières années. Je serai sans aucun doute le genre de père à prendre 200 photos par jour. Je ne transférerai toutefois que les meilleures sur mon ordinateur dans un dossier synchronisé en ligne à l'aide de l'outil gratuit Google Photos et sur un disque dur externe. Les clichés seront ainsi protégés contre un vol ou un bris informatique et plus invitants à regarder dans les années à venir. Je souhaite aussi numériser ses dessins, des chefs-d'œuvre probablement, et enregistrer sa voix, tant pour me souvenir de son timbre que pour me remémorer les sujets qui la touchaient à 3, 4 ou 5 ans. Limiter sa présence en ligne, entre les photos de bébés quotidiennes et l'absence totale de clichés en ligne qui peinent la famille et les amis, il y a un juste milieu à chercher. Un juste milieu qui pourrait être difficile pour moi. J'ai après tout déjà réservé l'adresse web.com de ma fille, mais qui s'impose puisque Simone devrait avoir droit à un minimum d'intimité numérique jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de prendre ses propres décisions. Un âge qui sera à déterminer dans un autre plan quinquennal sur lequel je risque d'avoir encore moins d'emprise que le premier. Alors voilà le premier plan techno d'un nouveau père de Maxime Johnson dans l'actualité d'octobre 2017.
Elle s'arrête pour prendre des photos. Elle s'achète des bijoux rococo. Elle s'attarde aux messages sur les poteaux. Elle regarde les dormeurs dans le métro. Et moi je ne la quitte pas. Je ne la quitte pas des yeux. Et moi je ne la quitte pas des yeux. Elle examine la lumière du matin et les vitrines des grands magasins. Elle relit l'intégrale de Proust. Elle relit les points de la petite ours. Et moi je ne la quitte pas. Je ne la quitte pas des yeux. Et moi je ne la quitte pas des yeux.
son album Variation Fantôme, c'était Philippe B. qui nous chantait sa chanson Ma photographe.
Merci Mathieu. Hélène Bédard au micro. Je vais terminer avec une dernière lecture qui en est une d'espoir et de bonheur. C'est un texte de Stéphane Laporte et ça s'intitule « S'aimer ». Le problème, ce n'est pas qu'une personne aime quelqu'un de son sexe, de l'autre sexe, de son ancien sexe ou de son sexe à venir. Le problème, ce n'est pas être hétérosexuel, homosexuel, transsexuel, bisexuel, métrosexuel, allosexuel et au revoir sexuel. Le problème, c'est de ne pas s'aimer soi-même, d'être triste sexuel. Tous les drames sont causés par ça, des petites chicanes ou tueries, de ce que l'on fait aux autres parce que l'on ne s'aime pas soi-même. Le premier coming out de tous les humains devrait être « J'ai une nouvelle à vous annoncer, je m'aime ». Après, tout irait beaucoup mieux. Mais avant, il faudrait savoir ce que c'est s'aimer. S'aimer vraiment. S'aimer, ce n'est pas penser qu'on est le meilleur, qu'on est plus beau que les autres, qu'on est plus fin que les autres, plus intelligent que les autres. S'aimer, ce n'est pas se servir en premier et ne penser qu'à soi. S'aimer, ce n'est pas avoir besoin de se mesurer aux autres pour apprécier qui l'on est. S'aimer, c'est réaliser qu'on est un mélange de nos parents, de nos familles, de nos sociétés, de notre culture, de notre environnement, de nos amis, de nos lectures, de nos voyages, de notre isolement, de nos joies, nos peines, nos désirs, nos présences et nos absences. Qu'on ait fait tout ça, qu'il n'y a pas deux personnes avec ce mélange-là, même pas notre jumeau. Donc, on est unique, donc incomparable. On n'est pas le meilleur des autres, on est le meilleur de soi. Si on s'aime, parce que si on ne s'aime pas, on peut rapidement devenir le pire de soi, et ça, c'est pas beau. S'aimer, c'est se dire à soi-même, « Écoute, bébé, là, on va passer la vie ensemble, on n'a pas ben le choix, alors on va tout faire pour profiter de chaque instant. » Parce que ça ne dure pas longtemps. S'aimer, c'est épouser sa réalité et ne jamais se laisser tomber. Une fois qu'on s'aime, on fait quoi? On va vers les autres pour que cet amour-là fasse des petits, dans tous les sens du mot. Admettons qu'on y arrive et qu'on réussit à s'aimer soi-même, que tout s'éclaircit dans notre tête et dans notre cœur. Comment fait-on pour que les autres s'aiment eux-mêmes aussi? Parce que tant qu'ils en sont incapables, on risque d'en payer le prix. Alors on fait quoi? On les aime, on les aide et surtout on leur sacre patience. Arrêtons de juger tout le temps ce dont l'autre a l'air, ce que l'autre fait ou fait pas. C'est le jugement qui ferme les gens, qui les fait pourrir en dedans et quand ça sort, ça fait mal et ça fait mal à tout le monde. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Personne n'est bien dans une case. C'est trop étroit, c'est peut-être rassurant, ça fait ordonner, mais ça fausse les données. Quand on joue au hockey, on a besoin de savoir qui fait partie de l'équipe, mais pas dans la vie. Dans la vie, on est tous dans la même équipe. Pas besoin de se catégoriser, de s'ajouter des préfixes. On est tous sexuels, c'est clair, surtout l'été. Après ça, soyons-le, avec qui on veut, on ne s'en portera que mieux. Bien sûr, il faut créer des organisations pour défendre les groupes opprimés, mais il faut viser le jour où l'orientation sexuelle ne sera pas plus provocante que l'orientation musicale. Je vais savoir si tu aimes Brahms ou Bieber, si je prends le temps de te connaître. Si je ne le prends pas, ben écoute qui tu veux. Ça ne change rien ma musique à moi. Je vais savoir si tu aimes embrasser les gars ou les filles, si je prends le temps de te connaître. Si je ne le prends pas, embrasse donc qui tu veux. Ça ne change rien ma sexualité à moi. Pour dominer les peuples, rien de mieux que de leur faire croire que leur malheur est dû aux autres, à une race, à un sexe, à une classe. Ça ressemble et ça fait oublier que leur malheur est dû à ceux qui les dominent. On n'en sort pas. Des gens qui s'aiment s'unissent avec des gens qui les aiment. Des gens qui ne s'aiment pas s'unissent avec des gens qui ne les aiment pas. Il faut s'aimer. S'aimer à un, à deux, à cent, à mille, à 8 millions, à 8 milliards, il faut s'aimer. Un très beau texte de M. Stéphane Laporte, daté de juin 2016, mais comme il est beau, s'aimer. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et merci beaucoup, chère Francine, collaboratrice, ainsi que cher Mathieu pour ses pièces musicales et qui nous supporte si bien à la régie. Mon enthousiasme fait m'éloigner de mon micro, je suis désolée. Alors, on se retrouve donc à la semaine prochaine. Au plaisir de vous parler encore une fois vendredi prochain. Merci et bonne semaine.
Bonne semaine, Hélène.